Il se trompait. À présent, je le sais. Car lorsque, quelques mois après, le Bavarois instaura son propre ordre à Rome, Marsile et d'autres minorites firent aux religieux fidèles au pape précisément ce que Dolcino demandait qu'on fît. Cela dit, je ne veux pas signifier que Dolcino était dans le vrai, mais plutôt que Marsile était lui aussi dans l'erreur. Je commençais à me demander, surtout à la suite de la discussion de l'après-midi avec Guillaume, comment il était possible, aux simples qui suivaient Dolcino, de distinguer entre les promesses des spirituels et celles de Dolcino. Ne mettait-il peut-être pas en pratique ce que d'autres avaient prêché à des fins purement mystiques? Ou peut-être là était la différence. La sainteté consistait à attendre que Dieu nous donnât ce que ses saints nous avaient promis, sans chercher à l'obtenir par des moyens terrestres. À présent, je sais qu'il en est ainsi, et je sais pourquoi Dolcino était dans l'erreur. On ne doit pas transformer l'ordre des choses, même si l'on doit espérer avec ferveur en sa transformation. Mais ce soir-là, j'étais en proie à des pensées contradictoires. « Enfin, me disait Hubertin, la marque de l'hérésie, tu la trouves toujours dans l'orgueil. » À un moment donné, Dolcino s'était nommé chef suprême de la congrégation apostolique, et il avait élu même une femme parmi ses lieutenants, la perfide Marguerite. Et il annonçait le pape angélique dont parlait l'abbé Joachim, qui aurait été élu par Dieu. Et alors Dolcino et tous les siens, qui en ce temps-là étaient déjà 4000, auraient reçu ensemble la grâce de l'Esprit-Saint. Mais au cours des 3 années qui précédaient sa venue, tout le mal eût dû être consumé. Et c'est ce que chercha à faire Dolcino, en transportant partout la guerre. Or le pape qui vint ensuite, et l'on voit ici comment le démon se joue de ses sujets, fut Clément V, qui prêcha la croisade contre Dolcino. Ce fut justice, car dans ses lettres, Dolcino affirmait désormais que l'Église romaine est une catin, qu'on ne devait plus obéissance aux prêtres, que seuls les apôtres formaient la nouvelle Église, qu'ils pouvaient annuler le mariage, qu'aucun pape ne pouvait remettre les péchés, qu'on ne devait pas payer les dîmes, que la vie était plus parfaite sans vœux qu'avec des vœux, qu'une église consacrée vaut moins qu'une écurie et qu'on peut adorer Christ dans les bois et dans les églises. » Il a vraiment dit ces choses-là. Il a fait pire. Comme il prit position sur la paroi chauve pour se procurer le ravitaillement, il commença à faire des incursions de pillards et à mettre à sac les villages de la vallée. Entre-temps, on avait eu aussi l'un des hivers les plus rigoureux des dernières décennies et dans toute la contrée régnait une grande famine. Et à la paroi chauve, la vie était devenue impossible. Et ils étaient pris d'une telle faim qu'ils mangeaient la chair des chevaux et d'autres bêtes de somme et du foin cuit. Un grand nombre en mourut. Mais contre qui se battait-il maintenant? L'évêque de Versailles avait fait appel à Clément V et une croisade avait été prêchée contre les hérétiques. Une indulgence plénière fut proclamée pour quiconque y participerait. Et l'on sollicita Louis de Savoie, les inquisiteurs de Lombardie, l'archevêque de Milan. Beaucoup prirent la croix pour venir en aide aux Versaillois et aux Novarois, même de la Savoie, de la Provence, de la France, et l'évêque de Versailles eut le commandement suprême. Ce n'était qu'accrochage continuel entre les avant-gardes des deux armées, mais les fortifications de Dolcino s'avéraient imprenables, et d'une manière ou d'une autre, les impies recevaient des secours. De qui? D'autres impies, je crois, qui tirait bénéfice de ce levain de désordre. Vers la fin de l'an 1305, l'hérésiarque fut pourtant contraint à abandonner la paroi chauve, laissant derrière lui les blessés et les malades, et il se transféra dans le territoire de Trivero, où il se retrancha sur un mont qu'on appelait alors Zubello, et qui depuis lors fut dit Rubello ou Rebello, parce qu'il était devenu la place forte des rebelles à l'Église. En somme, je ne peux pas te raconter tout ce qui advint, et ce furent des massacres terribles. Mais à la fin, les rebelles furent contraints à se rendre. Dolcino et les siens furent capturés et périrent sur le bûcher. La belle Marguerite aussi? Hubertin me regarda. Tu t'es souvenu qu'elle était belle, n'est-ce pas? Elle était belle, dit-on, et beaucoup de seigneurs du lieu tentèrent d'en faire leur épouse pour la sauver du bûcher. Mais elle ne voulut pas. Elle mourut impénitente avec son impénitent d'amant. Et que cela te serve de leçon. Garde-toi de la prostituée de Babylone. Prendrait-elle la forme de la créature la plus exquise? Mais à présent, dites-moi, père, J'ai appris que le cellérier du couvent, et peut-être Salvatore aussi, rencontrèrent Dolcino et furent avec lui, en quelque sorte.
Tais-toi et ne prononce pas de jugement téméraire. Je connus le cellérier dans un couvent de minorites. Après les événements qui concernent l'histoire de Dolcino, c'est vrai. Beaucoup de spirituels en ces années-là, avant que nous ne décidions de trouver refuge dans l'ordre de Saint-Benoît, eurent une vie agitée et durent abandonner leur couvent. Je ne sais où fut Remigio avant que je ne le rencontre. Je sais qu'il a toujours été un bon frère, fidèle aux enseignements de l'Église. Quant au reste, hélas, la chair est faible.
Qu'entendez-vous par là?
Ce ne sont pas des choses que tu dois savoir. Eh bien, en somme, puisque nous en avons parlé et que tu dois pouvoir distinguer le bien du mal,
il hésita encore.
Je te dirais que j'ai entendu murmurer ici dans l'abbaye que le cellérier ne sait pas résister à certaines tentations. Mais ce sont des murmures. Ces choses-là, il faut que tu apprennes à n'y point même penser.
Il m'attira de nouveau contre lui, resserrant son étreinte, et m'indiqua la statue de la Vierge.
Tu dois t'initier à l'amour sans tache. La voici, celle en qui la féminité s'est sublimée. C'est pourquoi tu peux dire d'elle qu'elle est belle, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques. En elle,
dit-il, le visage ravi par une félicité intérieure, tout comme l'abbé quand il parlait, la veille, des gemmes et de l'or de ses vases,
en elle, il n'est pas jusqu'à la grâce du corps qui ne se fasse signe des beautés célestes, et c'est la raison pour laquelle le sculpteur l'a représentée avec toutes les grâces dont la femme doit être parée.
Il me montra le buste menu de la Vierge, planté haut et serré dans un corselet, lacé au centre par une gancette que les petites mains de l'enfant s'amusaient à tirer.
Tu vois la grâce de ses seins, menus et chastes? Pulcra enim sunt ubera quae paululum super eminent et tumen modice, nec fluitantia licenter, sed leniter restricta, repressa sed non depressa. Que ressens-tu devant cette très douce vision?
Je rougis violemment, me sentant tourmenté comme par un feu intérieur. Hubertin dut le remarquer, ou peut-être perçut-il l'ardeur de mes joues, car il ajouta aussitôt
« Mais tu dois apprendre à distinguer le feu de l'amour surnaturel de la pâmoison des sens. C'est difficile, même pour les saints. »
« Mais comment reconnaît-on le bon amour ? » demandai-je en tremblant.
« Quel amour ? Il n'est rien au monde, ni homme, ni diable, ni chose aucune, que je ne considère aussi suspecte que l'amour, car celui-ci pénètre l'âme plus qu'aucune autre chose. Il n'existe rien qui tente, occupe et lie le cœur comme l'amour. C'est pourquoi, à moins d'être muni des armes qui la gouvernent, l'âme court par amour à une immense ruine. Je crois que sans les séductions de Marguerite, Dolcino ne se fût point damné. Sans l'arrogance et la promiscuité de la paroi chauve, peu aurait ressenti la séduction de sa rébellion. Prends garde. Cela ne concerne pas seulement l'amour mauvais, qui naturellement doit être fui par tous comme l'acte diabolique, je le dis aussi, et avec grande peur, du bon amour qui s'établit entre Dieu et l'homme, entre l'homme et son prochain. Il arrive souvent que deux ou trois personnes, hommes ou femmes, s'aiment très cordialement et nourrissent l'un pour l'autre une affection particulière et désirent ne jamais vivre séparés, et quand l'un désire, l'autre veut. Et je t'avoue qu'un sentiment de ce genre, je l'éprouvais pour des femmes vertueuses comme Angèle et Claire. Eh bien, cela aussi est fort répréhensible, encore qu'on en agisse spirituellement et pour Dieu. Car même l'amour que ressent l'âme, s'il n'est point sur la défensive mais accueilli avec chaleur, déchoit ensuite ou bien opère dans la confusion.
Oh ! L'amour a différentes propriétés. D'abord, l'âme pour lui s'attendrit, puis devient infirme. Mais ensuite, elle éprouve la chaleur vraie de l'amour divin et crie et se lamente, se fait pierre mise au chauffour pour se défaire en chaud et crépite léchée par la flamme.
Et cela est-il le bon amour ?
Hubertin me caressa la tête et comme je le regardais, je vis qu'il avait les yeux émus jusqu'aux larmes.
« Oui, c'est enfin le bon amour !»
Il retira sa main de mes épaules.
« Mais comme il est difficile, ajouta-t-il, comme il est difficile de le distinguer de l'autre. Et parfois, quand ton âme est hantée par les démons, tu te sens comme un pendu qui, les mains liées dans le dos et les yeux bandés, reste suspendu au gibet et vit pourtant sans aucune aide, sans aucun soutien, sans aucun remède, tournant dans le vide. »
Son visage n'était plus seulement mouillé de larmes, mais d'un voile de sueur.
« Allons, va-t'en maintenant, » me dit-il en hâte. « Je t'ai dit ce que tu voulais savoir. Par ici le cœur des anges, par là les gorges de l'enfer. Va et loué soit le Seigneur. »
Il se prosterna de nouveau devant la Vierge. Je l'entendis qui sanglotait doucement. Il priait. Je ne sortis pas de l'église. L'entretien avec Hubertin avait amené dans mon esprit et dans mes viscères un étrange feu et une indicible agitation. À telle enseigne que je me trouvais sans doute pour cela enclin à la désobéissance et décidai de retourner seul dans la bibliothèque. Je ne savais pas moi-même ce que j'y cherchais. Je voulais explorer tout seul un endroit inconnu. Me fascinait l'idée de pouvoir m'y orienter sans l'aide de mon maître. J'y grimpais comme Dolcino avait grimpé sur le mont Rubello. J'avais la lampe avec moi. Pourquoi l'avais-je emportée? Peut-être nourrissais-je déjà ce dessein secret? Et je pénétrais dans l'ossuaire, presque les yeux fermés. En un rien de temps, je fus dans le scriptorium. C'était un soir fatal, je crois, car tandis que je furetais parmi les tables, j'en aperçus une sur laquelle était ouvert un manuscrit qu'un moine copiait en ces jours-là. Aussitôt le titre me requit. Historia Fratris Dulcini Hérésiarque. Je crois que c'était la table de Pierre de Sant'Albano dont on m'avait dit qu'il écrivait une histoire monumentale de l'hérésie. Après ce qu'il advint à l'abbaye, il ne l'écrivit naturellement plus, mais n'anticipons pas. Rien d'anormal donc que ce texte fût ici, accompagné d'autres d'ailleurs, au sujet analogue, sur les patarins et sur les flagellants. Mais je pris comme un signe surnaturel, je ne sais encore si céleste ou diabolique, cette circonstance, et je me laissai aller à lire l'écrit avec avidité. Il n'était pas très long, et dans la première partie, il disait, avec beaucoup plus de détails que j'ai oubliés, ce que m'avait dit Hubertin. On y parlait aussi des nombreux crimes commis par les Dolciniens durant la guerre et le siège, et de la bataille finale, qui fut des plus sanglantes. Mais j'y trouvais en plus ce qu'Hubertin ne m'avait pas raconté, et dit par qui avait évidemment tout vu et en gardait encore l'imagination enflammée. J'appris donc comment, en mars de l'an 1307, le samedi saint, Dolcino, Marguerite et ses autres lieutenants auraient été finalement pris, conduits dans la ville de Biella et remis à l'évêque qui attendait la décision du pape. Le pape, sitôt qu'il sut la nouvelle, la transmit au roi de France, Philippe, en écrivant « Des nouvelles infiniment agréables nous sont parvenues, fécondes en joie et allégresse, pour ce que le démon pestifère, fils de Bélial, et grande horreur hérésiarque, Dolcino, après de longs dangers, des peines et des massacres incessants et de fréquentes incursions, est enfin, avec ses partisans, prisonnier dans nos prisons, grâce à notre vénérable frère Raniero, évêque de Verceil, capturé en le jour de la Sainte Cène du Seigneur, et la nombreuse gente qui était avec lui, infectée par contagion, fut tuée ce jour même. » Le pape se montra impitoyable en regard des prisonniers, et il commanda à l'évêque de les mettre à mort. Alors, en juillet de la même année, le premier jour du mois, les hérétiques furent remis aux bras séculiers. Tandis que les cloches de la ville sonnaient à toute volée, on les plaça sur un chariot, entouré des bourreaux, suivi de la milice qui parcourut toute la ville et, à chaque coin de rue, avec des tenailles rougies à blanc, on déchirait les chairs des coupables. Marguerite fut brûlée la première, devant Dolcino, dont pas un seul muscle du visage ne bougea, tout comme il n'avait pas émis une plainte lorsque les tenailles lui mordaient les membres. Après quoi, le chariot poursuivit sa route, alors que les bourreaux enfilaient leurs fers dans des vases pleins de flambeaux ardents. Dolcino subit d'autres tourments, et il resta toujours muet, sauf quand on l'amputa de son nez, car il haussa légèrement les épaules et quand on lui arracha le membre viril, car là il poussa un long soupir, comme un glapissement. Ces dernières paroles témoignèrent de son impénitence, et il avertit qu'il ressusciterait le troisième jour. Ses cendres furent dispersées au vent. Je refermai le manuscrit. Mes mains tremblaient. Dolcino avait commis beaucoup de crimes, m'avait-on dit, mais il avait été horriblement brûlé. Sur le bûcher, il s'était comporté... comment ? Avec la fermeté des martyrs ou avec l'opiniâtreté des damnés ? Tout en montant d'un pas chancelant les escaliers qui menaient à la bibliothèque, je compris pourquoi j'étais si troublé. Je me rappelais soudain une scène que j'avais vue peu de mois auparavant, juste après mon arrivée en Toscane. Je me demandais même comment j'avais pu quasiment l'oublier jusqu'à présent, comme si mon âme malade avait voulu effacer un souvenir qui pesait sur elle comme un incube. Au vrai, je ne l'avais pas oublié, car chaque fois que j'entendais parler de Fraticelle, je revoyais des images de cet événement pour aussitôt les chasser encore dans les replis de mon esprit, comme si cela avait été un péché que d'être le témoin d'une pareille horreur. J'avais pour la première fois entendu parler de Fraticelle les jours où, à Florence, j'en avais vu brûler un sur son bûcher. Cela s'était passé peu avant que je ne rencontre à Pise frère Guillaume. Il retardait son arrivée dans cette ville et mon père m'avait donné l'autorisation de visiter Florence, dont nous avions entendu louer les superbes églises. J'avais circulé à travers la Toscane pour apprendre mieux le vulgaire italien et j'avais enfin séjourné une semaine à Florence car j'avais beaucoup entendu parler de cette ville et je désirais la connaître. Ce fut ainsi qu'à peine arrivé, j'entendis qu'une affaire faisait grand bruit et agitait de fond en comble la cité. Un Fraticelle hérétique, accusé de crimes contre la religion et amené devant l'évêque et d'autres ecclésiastiques, était ces jours-là soumis à sévère inquisition. Et tout en suivant ceux qui m'en parlaient, je me transportais sur les lieux de l'événement. J'entendais les gens dire que ce Fraticelle, de nom Michel, était en vérité un homme fort pieux qui avait prêché pénitence et pauvreté en répétant les paroles de saint François et qu'il avait été traîné devant les juges du fait de la malice de certaines femmes qui, feignant de se confesser à lui, lui avaient ensuite attribué des propositions sacrilèges. Mieux, il avait été pris par les hommes de l'évêque précisément dans la maison de ces femmes, ce qui ne laissait pas de m'étonner, car un homme d'église ne devrait pas aller administrer les sacrements en des lieux aussi peu convenables. Mais, semblait-il, c'était la faiblesse de Fraticelle que de ne point tenir en juste considération les convenances, et peut-être y avait-il du vrai dans la rumeur publique qui les voulait de mœurs douteuses, ainsi qu'on le disait toujours des cathares, traités de bulgares et sodomites. J'arrivai à l'église de San Salvatore, où se tenait le procès, mais je ne pus entrer tant la foule était nombreuse sur le parvis. Certains cependant s'étaient hissés et agrippés à la grille des fenêtres et voyaient et entendaient ce qui se passait dans l'église et ils le rapportaient aux autres en dessous. On était alors en train de relire à frère Michel les aveux qu'il avait faits la veille où il disait que Christ et ses apôtres n'eurent aucune propriété ni privée ni commune. Mais Michel protestait que le tabellion y avait ajouté maintenant moult fausses conséquences et il criait, et cela je l'entendis de dehors, « Vous m'en rendrez raison le jour du jugement !» Mais les inquisiteurs lurent la confession telle qu'ils l'avaient rédigée et pour finir, ils lui demandèrent s'il voulait humblement se conformer aux opinions de l'Église et du peuple entier de la ville. Et j'entendis Michel qui criait bien haut que lui, il voulait s'en tenir à ce qu'il croyait, c'est-à-dire qu'il tenait Christ pour pauvre crucifié et pape Jean XXII pour hérétique, puisqu'il disait le contraire. Il s'ensuivit une grande discussion où les inquisiteurs, parmi lesquels nombre de franciscains, voulaient lui faire comprendre que les Écritures n'avaient pas dit ce qu'il disait, lui, et lui les accusait de nier la règle même de leur ordre, et les autres fulminaient contre lui, demandant s'il croyait par hasard mieux entendre les Écritures qu'eux-mêmes, qui étaient des maîtres en la matière. Et Fra Michel, avec grande opiniâtreté vraiment, les contestait, tant et si bien que les autres se mettaient à l'invectiver avec des provocations du genre. « Et alors, nous voulons que tu tiennes Christ pour grand propriétaire et pape Jean pour catholique et saint !» Et Michel, sans en démordre, « Non, hérétique !» Et eux de dire qu'ils n'avaient jamais vu personne d'aussi obstiné dans sa propre infamie. Mais parmi la foule hors du palais, beaucoup disaient qu'il était comme Christ au milieu des pharisiens, et je m'aperçus que dans le peuple, beaucoup croyaient en sa sainteté. Enfin, les hommes de l'évêque le ramenèrent en prison dans les fers. et le soir on me dit que nombre de frères, amis de l'évêque, étaient allés l'insulter et lui demander de se rétracter. Mais lui, il répondait comme certain de sa propre vérité. Et il répétait à chacun que Christ était pauvre, comme l'avaient dit aussi saint François et saint Dominique, et que si, pour professer cette juste opinion, il devrait être condamné au supplice, tant mieux, car il pourrait voir sans tarder ce que disent les Écritures, et les 24 vieillards de l'Apocalypse, et Jésus-Christ, et saint François, et les glorieux martyrs. On me rapporta qu'il dit « Si nous lisons avec une telle ferveur la doctrine de certains saints abbés, avec quelle ferveur redoublée et quelle joie ne devons-nous pas désirer d'être au milieu d'eux ?» À ce genre de propos, les inquisiteurs sortaient de la geôle, le visage sombre, et criaient indignés, je les entendis moi-même, « Il a le diable au corps !»